l'enquête de moralité, alors, encore une fois, il y a un écrit et un oral. Hein. Dans l'écrit, on demande, ça c'est d'ailleurs classique dans le jugement de l'époque, on demande des garants. Donc, évidemment, il faut pouvoir essayer de choisir les garants les plus respectables possible par leur activité, par leur statut. Et puis ensuite, il y a un entretien. Alors, malheureusement, je n'ai pas de trace de l'entretien qui a lieu, mais enfin, les vertus qu'on attend. La cité Jardin de Marc, elle est intéressante parce qu'elle est conçue pour la frange supérieure de la frange de la toute petite classe moyenne, hein, disons la frontière entre les ouvriers qualifiés et les petits employés. C'est une classe sociale qui est très valorisée sous la Troisième République et ensuite parce qu'on considère que ce sont des gens prévoyants, méritants, qui travaillent bien, mais qui malheureusement ne mettent pas assez au monde d'enfants parce qu'ils n'ont pas des revenus suffisants. Donc les qualités morales qu'on attend, c'est beaucoup ça, la prévoyance, l'intérêt pour les enfants. Je n'ai pas trouvé de traces, disons, de questions proprement idéologiques sur les ménages. Les naissances, alors toutes les naissances sont prises en compte en théorie, mais après il y a une part de négociation avec les ménages. Alors par exemple, il y a le cas hein, d'un enfant trisomique mais qui est placé dans une institution. Alors est-ce qu'on va le compter comme un enfant, comme un demi-enfant? Alors une des choses qui se négocient plus avec les jeunes couples candidats, c'est la grossesse de l'épouse. Qu'est-ce qui se passe quand le couple a par exemple eu un enfant, mais que l'épouse est enceinte? Comme les ménages savent que la fécondité joue un rôle, il y a une femme en particulier qui arrive, qui va voir son médecin, qui dit qu'elle est enceinte. Visiblement, d'après les archives, le médecin n'est pas tout à fait convaincu que l'épouse soit réellement enceinte. Donc il lui fait un certificat en disant « Madame untel m'a déclaré être enceinte ». Et le couple joint ça à sa demande. Il y a beaucoup de petites histoires comme ça. Il y en a qui sont plus tragiques, c'est celle des enfants morts. Alors, les enfants morts, on les compte, bon. Les enfants morts à la guerre, qui étaient majeurs mais qui sont morts à la guerre, on les compte aussi. Mais on va retrouver, pendant la Deuxième Guerre mondiale, le fameux problème que vous connaissez tous, qui est celui des mal de nous. Est-ce qu'on compte les enfants qui sont morts dans les camps de prisonniers en Russie? Il y a des cas comme ça. Vous voyez, on oscille souvent entre certaines situations comiques et celles d'autres qui sont beaucoup plus dures.
C'est drôlement intéressant ce que vous avez dit parce que ça clarifie et ça nous donne un tout petit peu plus de mémoire par rapport à la loge d'Antin.
Oui, alors voici parce que c'est une question très importante à laquelle je me suis attaché dans toute la première partie du livre. C'est la richesse de toutes les entreprises urbanistiques à Strasbourg au début du XXe siècle. Effectivement, la cité Ungemar est l'une des initiatives parmi d'autres en matière de logement social, en matière de cité-jardin. Et ça, Strasbourg est vraiment une ville pionnière en France. Hein. Avec ce modèle intermédiaire inspiré de l'Allemagne et qui est pionnier par rapport à la France. Donc effectivement, pour moi, c'est un point très très important parce que c'est l'une des choses qui font que les résidents ont accepté ces règles du jeu de la cité, c'est qu'au fond, effectivement, elle était presque comme les autres. Et donc, elle pouvait être un petit peu assimilée aux autres. Et il y avait une culture parmi les Strasbourgeois et les Alsaciens de la région adjacente à Strasbourg. Il y avait cette culture du logement social. Néanmoins, la cité Ungemar est très particulière. Alors, la première question que vous avez posée est très importante. On a pensé, beaucoup de Strasbourgeois pensaient effectivement que la cité Ungemar était faite pour les salariés, et ça n'était pas le cas. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles les pouvoirs publics locaux et nationaux soutenaient la cité. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, il y avait beaucoup d'initiatives de logement patronal, et les pouvoirs publics n'aimaient pas trop parce que c'était l'apanage des ouvriers de la firme. L'un des aspects les plus libéraux, si on peut dire, de la cité Ungemar, c'est qu'elle s'étend à tout le monde. Elle est ouverte à tous et pas du tout aux salariés d'entreprise, mais c'est vrai qu'à Strasbourg, on pensait parfois que c'était le cas. les règles de fécondité, tout ce contrat de procréation dont on a parlé, là, c'est tout à fait spécifique à la cité de Guimard, ça, il n'y a aucune ambiguïté. Il y a effectivement des différences entre les maisons, c'est pensé d'emblée. Hein. D'abord, il y a des formats différents, il y a trois types de formats. Et puis, l'urbanisme, quand on regarde dans le détail, c'est partie du charme de cette cité-jardin, tout est fait pour que... C'est pas le modèle anglais où toutes les maisons sont exactement identiques. Non, au contraire, il y a des petits détails qui différencient, ça fait partie du charme. Et dernière chose, puisque vous avez évoqué ce lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, je vais être rapide là-dessus. Moi, une des choses que j'ai découvertes et qui est à la fois un peu dramatique et en même temps assez fascinante, c'est cet incroyable tohu-bohu de population dans l'Alsace libérée. C'est-à-dire dans l'Alsace libérée, vous avez les Alsaciens qui ont trouvé des logements pendant la Deuxième Guerre mondiale pour se loger. Il y avait là aussi une crise du logement, surtout qu'il y avait des Allemands qui venaient prendre des logements dans la région. Et puis vous avez les Alsaciens qui reviennent de la France de l'intérieur et qui disent « je veux reprendre mon logement ». Et puis vous avez toutes les spoliations de mobilier qui ont été faites par les occupants allemands. Donc vous avez un tohu-bohu incroyable dans le Strasbourg de l'après-1945 qu'on peut bien reconstituer, puisque autour de la cité de Gomard, il y a vraiment des archives extrêmement intéressantes, extrêmement riches. Donc j'ai essayé de donner sens de ce tourbillon incroyable de l'après-Deuxième Guerre mondiale.
C'est bon. Comment cela se fait-il? Puisque quand on regarde un peu les plans de l'époque, il y avait des fortifications, il y avait juste un petit pont. Comment la mère de famille allait à l'église? C'est le troisième cas qui manque.
Alors ça, c'est une excellente. C'est aussi une excellente question et qui a été très. Bon, pour être franc, j'ai la question qui s'est posée à moi, c'était de savoir. Bon, le fait d'acheter des luthériens, je me suis posé la question de savoir si il y avait eu. Ça rejoint aussi la question de Madame sur l'idéologie. Hein, s'il y avait un choix, une prime confessionnelle, soit plutôt protestant, soit plutôt catholique. Et malheureusement, je n'ai pas pu avoir accès, sur le XXe siècle, ce genre de source est un peu confidentiel, évidemment, c'est une bonne chose, que ça soit un peu interdit, même aux historiens. Donc je n'ai pas pu vérifier s'il y avait plutôt une majorité dans un sens ou plutôt dans l'autre. Mais alors, la question que vous posez est intéressante pour une autre raison. Effectivement, si on compare avec d'autres cités-jardins de l'époque, en France, en Allemagne ou en Angleterre, toutes les autres cités-jardins ont une dimension collective. Elles visent à s'adresser à des ouvriers, toute petite classe moyenne, et à les intégrer dans la société. Et du coup, il y a toujours des infrastructures communes. Des infrastructures culturelles, des infrastructures scolaires ou autres. Ça n'est pas le cas à la cité de Guimard. À part l'école maternelle, il n'y a aucune infrastructure collective. Et ça, et donc en particulier religieuse, et ça, c'est lié au fait que pour Alfred Lachère, c'est véritablement la dimension biologique qui compte, et puis ce qui se passe dans les familles. Là, de ce point de vue-là, c'est vraiment une espèce de super pouponnière, si on peut dire les choses comme ça.
Nous avons vécu tous les deux dans la cité de 1939 à 1962 d'abord, et nous y sommes revenus 5 ans, de 67 à 73. Et on n'a pas quitté la guerre. Sauf pour aller à la campagne chez la famille. Donc, je n'ai pas beaucoup connu Alfred Lachère. Je sais quand même que pour mes parents ou mes beaux-parents, c'était un peu un gendarme qui vérifiait qu'il n'y ait pas de pissenlit au jardin, qu'il n'y ait pas de linge au jardin, que les plaques de laiton étaient nettoyées régulièrement. Bon, ça, c'est pour le folklore. C'est une époque aussi où les contrats étaient mieux respectés qu'aujourd'hui. Les maisons sont de taille différente aussi. Mes parents qui sont rentrés en 38 comme jeunes mariés qui n'avaient aucun contact avec Ungemach et la confiture. Mon père était agent bureau aux impôts et maman avait un, avec une maison de 3 pièces, rue du Jasmin, en face de Arte maintenant, près des remparts. Mes beaux-parents, par contre, ont eu droit à 2 maisons successives au fur et à mesure de l'agrandissement de la famille. Eux étaient plus nombreux que nous. Il y avait 7 enfants. Nous, on n'en avait que 3 pour des raisons de guerre, me disait papa. Et effectivement, lorsque la famille de mes beaux-parents s'est agrandie, ils sont allés de la rue du Levant à la rue de Jackson. Et il est vrai que la loi de 48 après a un petit peu à la longue modifié le créneau des habitants. Merci pour vos témoignages. On a fait le déplacement pour voir cette histoire d'une cité qui est toute notre enfance, nous deux. Merci.
Merci beaucoup, ça me touche beaucoup et que, surtout que vous ayez fait ce déplacement-là et que j'espère que vous aurez quelques minutes après pour je vais discuter avec vous. Alors, encore une fois, c'est vrai qu'il y avait, non seulement il y avait 3 formats de maison, mais il y avait un critère très important, c'est que les ménages qui commençaient à s'agrandir négociaient que la Fondation Ungemach finance l'aménagement des mansardes pour les transformer en pièces. Donc ça aussi, c'est un critère qui différencie beaucoup les maisons. Alors, c'est très amusant ce que vous avez dit sur Alfred Dachère de Gendarme, parce que, effectivement, cet homme qui était un homme d'affaires avait bien réussi dans les affaires, il avait pu s'arrêter de travailler, et donc il y a un moment où il devient l'administrateur de la cité, il vient tous les jours dans la cité, il circule, il note tout, et dans les années 30, je trouve trace d'une pétition contre lui, et c'est au moment des temps modernes, Charlot, on le surnomme le dictateur. Monsieur Dictateur, on l'appelle, et les pétitionnaires disent. Et en plus, Monsieur Dictateur a eu le culot de passer parmi nous pour demander des lettres de soutien pour obtenir la Légion d'honneur. Donc, alors, c'est vrai qu'il surveille tout, mais il a quand même des conflits. Alors, vous avez tout à fait raison sur les contrats, sur l'application des contrats, mais il y a quand même quelques locataires qui sont des fortes têtes. Et il se bat sur un certain nombre de questions. Sa grande obsession, c'est aussi les locataires qui, de manière tout à fait clandestine, élèvent des poules dans la cave. Il y a une grande cave dans les maisons de Gomard. Et là, à l'époque, ça se fait, parce qu'on a besoin pour les œufs. On est dans une époque où, surtout pendant la guerre, évidemment, la pénurie est très grave. Merci beaucoup, merci infiniment pour ce témoignage.
Mais il s'est pas marié, il n'a pas eu d'enfant pour l'occuper un peu.
Alors, ça c'est un point, vous avez raison, j'aurais voulu vous le dire. C'est toujours la même. C'est amusant, c'est dans le nataliste français, donc quand vous regardez les natalistes, très souvent, ils n'ont pas eu beaucoup d'enfants. Alors, Alfred Dachère s'est marié à 50 ans, en 1925. Il a eu 2 enfants, dont François Dachère, son fils aîné, à qui je rends un grand hommage dans ce livre, puisque François Dachère, qui est toujours vivant, il est né en 1927-1928, a eu l'infinie gentillesse de me donner accès aux documents qu'il avait recueillis de son père. Donc j'ai eu accès à des archives personnelles très très importantes pour moi. François Dachère, je trouve, a eu beaucoup de courage parce qu'il savait que c'était un sujet sensible. Il m'a fait confiance. Moi, je lui dis, je suis historien, je ne cherche pas à faire un scandale avec l'histoire, je cherche juste à présenter ce que c'était cette histoire. Il m'a fait confiance. Et on a beaucoup travaillé ensemble, il m'a apporté beaucoup. D'ailleurs, il a résidé dans... François Dachère a résidé dans la cité.
Alors, juste un mot pour conclure.
Est-ce qu'on pourrait simplement donner le nom d'architecte et de l'urbaniste de ce nom ?
C'est Ruté, qui était donc un cabinet d'architecture parisien spécialiste dans les cités-jardins, mais avec l'aide d'un architecte alsacien qui s'appelait Sorg.
D'accord. Je ne sais pas si ça t'a donné quelque chose. Voilà. Alors, prenons le résultat de la. Si vous avez des questions à lui poser, vous pourrez le faire. Juste une chose, évidemment, le livre nous intéresse parce que ça part de Strasbourg, mais il est publié aux éditions du Seuil et dans la librairie du XXe siècle. C'est pas un hasard, c'est vraiment un bon livre. Merci à tous et bonne soirée.